Les nuits de France Culture. Si le nom de l'anarchiste Ravachol vous est familier, tel n'est sans doute pas le cas de celui de Paul Delassalle, anarchiste lui aussi, ouvrier et militant syndicaliste de la Belle Époque. L'émission que voici vous permettra d'en savoir plus sur cet inconnu de l'histoire, grâce à deux historiens, Jean Métron et Colette Chambellan, qui s'attardent au micro de Jean Montalbetti sur l'engagement syndical de Paul Delassalle au tournant des 19e et 20e siècles. Période marquée par une conflictualité et des tensions qui ne concernent pas simplement le monde du travail. L'affaire Dreyfus, le militarisme ou l'antimilitarisme, le nationalisme ou l'internationalisme polarisent en ce temps la société tout entière. Dans ce contexte agité, Delassalle affirme ses convictions anarchistes, selon les mots de Colette Chambellan, en pratiquant le refus de parvenir, le refus des honneurs, le refus de l'argent et en restant attaché à l'action collective. Voici donc le deuxième temps des Inconnus de l'Histoire, consacré à Paul Delassalle, par Jean Montalbetti. Une émission du 22 juillet 1983.
Unknown people in history.
Disconosciuti nella storia.
La storia dos desconocidos.
Unbekannte der Geschichte.
L'uomo non si rende zero.
The unknowns of history.
Les Inconnus de l'Histoire.
Jean Métron, Paul Delassalle, qui est né en 1870, avait 23 ans lorsque il va adhérer pour la première fois au groupe corporatif le 7 janvier 1893, adhérer à une chambre syndicale des ouvriers en instrument de précision qui a été créée peu de temps auparavant, le 12 juillet 1892. Et qui avait alors, au cours de cette année 1892, seulement 172 membres. C'est-à-dire, il s'agit vraiment des débuts du syndicalisme. Alors, qu'est-ce qui le conduit, lui qui, à l'époque, se trouve proche des milieux anarchistes sur le plan politique, à rejoindre le courant syndicaliste qui se forme à cette époque ?
Bien, disons que c'est l'adhésion normale pour un salarié, n'est-ce pas, d'adhérer au syndicat. Et il est certain que les anarchistes se sont posés pendant longtemps en contestataires des syndicats. Mais dès 1894, 93 même, avec Fernand Pelloutier et sa campagne pour les bourses du travail, Delassalle est convaincu que le syndicalisme est quelque chose de positif. Et il deviendra très vite, parce qu'il a l'âme militante, un adjoint à la Fédération des Bourses de Fernand Pelloutier. Et Fernand Pelloutier, qui est vraiment un militant d'un type exceptionnel. Delassalle est donc, dès 1994, secrétaire adjoint de la Fédération des Bourses.
Alors Fernand Pelloutier, dont vous citez le nom, va être un modèle, un peu un maître pour Paul Delassalle,
oui,
pendant toutes ces années,
oui.
Même si il a une relativement brève carrière, puisqu'il va le mourir donc très jeune. Il est le fondateur de la Fédération des Bourses du Travail et Paul Delassalle va directement travailler avec lui, puisque d'une
adjoint.
Certaine façon, il va devenir son adjoint.
Son adjoint.
Alors, qui est le personnage de Fernand Pelloutier ? Il est simplement de quelques années l'aîné de Paul,
oui,
Delassalle.
Et Pelloutier aura une brève carrière. Et il aura travaillé avec Jean Grave au Temps Nouveau, mais il aura été l'initiateur du syndicalisme dans le mouvement ouvrier. Il estime que la tâche des anarchistes est celle qu'il essaie de faire pénétrer dans le journal Les Temps Nouveaux de Jean Grave. Cet anarchisme qui ne se veut plus quelque chose d'abstrait et qui conduisent à certains errements, peut-il estimer, mais conduisent à des paliers progressifs qui sont l'action syndicale. Il ne réussira pas avec Jean Grave. Jean Grave étant ce qu'on a appelé le pape de la rue Mouffetard, je ne voudrais pas...
C'est un journaliste surtout, une sorte de théoricien du mouvement anarchiste.
Théoricien, oui, d'origine ouvrière, et qui a appris au fur et à mesure, au jour le jour, son métier.
Dont Delsalle va devenir un peu plus tard le collaborateur.
Delsalle deviendra le collaborateur pendant une dizaine d'années. Et on peut dire que le mérite de Delsalle est d'avoir duré pendant 10 ans aux côtés de Grave, qui n'était pas d'un commerce facile, pas plus que tous ces hommes-là d'ailleurs.
Tout anarchiste mais, qu'il était, c'était un homme très autoritaire.
Oh, mais tous les anarchistes étaient autoritaires. Tous ceux que j'ai connus étaient très autoritaires. Mais les gens de foi sont des gens autoritaires. Et ils ne sont pas toujours d'un commerce facile.
C'est, semble-t-il, M. de Molinari, rédacteur en chef du Journal des économistes, qui, en 1845, conçut le premier, le projet de créer une bourse du travail. Mais devant l'indifférence des ouvriers qui se méfiaient et devant l'hostilité violente des patrons qui craignaient déjà de voir les ouvriers s'entendre et se concerter, le dit projet ne put être mis en application. En février 1851, M. Ducoux, représentant du peuple, déposait sur le bureau de l'Assemblée législative un projet inspiré vraisemblablement de l'idée de M. de Molinari. Mais celui-ci, tentative inutile, et peut-être prématuré, fut repoussé par 418 voix contre 218. La question sommeille alors pendant 25 ans. En 1875, une pétition d'ouvriers déposée sur le bureau du Conseil municipal de Paris formulait le projet suivant. Les sous-signés demandent qu'il soit procédé à l'étude de l'établissement à l'entrée de la rue de Flandre d'une bourse du travail, ou au moins d'un refuge clos et couvert, afin d'abriter les nombreux groupes d'ouvriers qui se réunissent chaque matin pour l'embauchage des travaux du port et autres. Ce projet qui ne réclame en somme qu'un local pour l'embauchage, pour remplacer la grève en plein air, qui existe encore actuellement pour certaines corporations, fut renvoyé à une commission qui l'enterra naturellement. Enfin, le 5 novembre 1886... un rapport concluant à la création d'une bourse du travail était déposé sur le bureau du conseil municipal. Et comme il fallait compter avec les ouvriers parisiens que les idées socialistes commençaient à gagner, le projet fut adopté. L'idée d'une bourse du travail, tant de fois abandonnée, allait donc enfin devenir une réalité. Sous l'influence d'hommes d'action, les syndicats ont marché de l'avant. Ils ne se contentent même plus de réclamer pour leurs membres le droit à l'existence de chaque jour par une augmentation de salaire, un peu plus de bien-être et de liberté par une diminution des heures de travail, un peu plus de dignité en refusant de se laisser traiter comme des bêtes de somme. Ils prévoient maintenant qu'ils pourront être appelés un jour à assurer la production et qu'ils sont l'embryon des groupes libres de producteurs de l'avenir.
Peloutier, quel personnage. C'est un personnage assez passionnant.
Parce bien, Peloutier,
il a été à l'origine de beaucoup de choses.
Son grand historien à l'heure actuelle est Jacques Julliard, qui lui a consacré, sinon une thèse, du moins un énorme volume, et qui, sous le titre un peu particulier, théoricien du syndicalisme d'action directe, hein, et non pas du syndicalisme révolutionnaire. Il pensait que syndicalisme d'action directe disait mieux ce que Peloutier avait pressenti.
C'est tout de même, par exemple, l'inventeur de la théorie de la grève générale.
Oui, et contre les grèves partielles, ne l'oublions pas.
Quand apparaît justement cette idée de la grève générale comme étant propre à bloquer complètement la société capitaliste et donc à provoquer l'avènement de la révolution ?
Elle est très ancienne. Hein. On peut dire que c'est vers les années 1895, si vous voulez, qu'elle prend une résonance particulière. C'est un article de foi en ce qui concerne Peloutier, et Peloutier est repris par Delsalle ensuite, la grève générale, c'est la révolution. Contre les grèves partielles, qui sont des grèves perdues d'avance, qui sont récupérées par la société ou par le patronat, qui ne servent à rien, parce que leur thèse est la suivante, quand on est capable de faire voter une loi pour concrétiser déjà ce qu'on a obtenu, la loi ne sert à rien. Par conséquent, contentons-nous, ce qui compte, c'est la force et la volonté de celui qui veut transformer la société. Et ce qui surviendra, du moins il l'espère un jour, c'est la grève générale qui paralysera la société et qui sera l'équivalent de la révolution.
La grève est l'aboutissant logique de l'état de guerre qui met aux prises capital et travail. Que ces deux éléments soient unis, c'est-à-dire que la production d'hier du travailleur, au lieu de former le capital, retourne à celui-ci, c'est-à-dire que le capital cesse de prélever une part quelconque sur le travail d'aujourd'hui, et la grève disparaît de la société. Comme la guerre politique disparaîtra par la fédération des peuples débarrassée de tous les tyrans et exploiteurs. Jusque-là, nous devons considérer la grève comme une protestation du travailleur salarié contre le patronat et le capital. Est-ce à dire que la grève partielle puisse apporter quelque amélioration ou quelque soulagement à la classe ouvrière? Cela, nous ne le pensons pas. Les patrons, pouvant toujours profiter d'un mouvement favorable pour reprendre aux ouvriers ce qu'ils avaient dû leur concéder précédemment. L'histoire de toutes les grandes grèves entreprises par une partie du prolétariat est là pour nous le prouver. De plus, nous savons très bien que si les salaires s'élevaient dans toutes les industries, dans toutes les branches de l'activité humaine, les ouvriers devraient rembourser sur les objets de consommation ce qu'ils auraient obtenu par l'élévation des salaires. Lorsque les ouvriers se mettent en grève, poussés par la misère, ils ne calculent pas toutes ces probabilités, ils agissent d'après les nécessités immédiates. Que la grève réussisse, il y a momentanément pour l'ouvrier augmentation de bien-être. Et c'est là son but, son seul but. Il ne faut pas nous illusionner. Que la grève échoue, il y a perte, mais pour les deux parties intéressées, patrons et ouvriers. Dans les deux cas, cependant, la grève aboutit à réveiller chez l'ouvrier l'idée de révolte.
À chaque congrès, Delsalle, délégué par une masse de syndicats, vient populariser, vient développer, vient proposer des motions sur un certain nombre de thèses, de mots d'ordre, qui sont les siens et qu'ils développent à cette occasion. Ils valent ce qu'ils valent. Je pense qu'ils sont là, qu'ils nous montrent peu à peu ce qu'était la personnalité de ce militant.
Oui, alors est-ce qu'il s'agit des thèses de Delsalle lui-même ou est-ce qu'il s'agit des thèses d'un petit groupe de syndicalistes révolutionnaires qui sont issus du mouvement anarchiste et dont fait partie Delsalle?
Ils ne sont pas les thèses de Delsalle. Elles sont les thèses d'un groupe, comme vous le dites, de syndicalistes révolutionnaires issus de cette période nihiliste que fut la période 92-94 et qui ont résolu de se battre, mais efficacement cette fois, au sein des syndicats, de faire du syndicalisme anarchiste ou un syndicalisme ouvrier. Un anarchisme ouvrier. Pénétrer le syndicalisme d'anarchiste, pénétrer l'anarchisme de syndicalisme, telle fut l'ambition de ceux qui avaient été déçus par les attentats terroristes. Et alors je citerai des gens comme Pelloutier, mais aussi et surtout comme Pouget, comme Delsalle, comme Yvetot, comme des blanquistes comme Griffull, comme...
Qui va avoir des responsabilités très importantes à la tête de la CGT.
Disons qu'ils vont avoir, ils vont coiffer. Ils sont entrés dans le mouvement syndical au cri « pas de politique dans les syndicats ». Parce qu'on en avait assez de ces familles de socialistes qui se bagarraient, blanquistes, allemandistes et toutes les variétés de socialistes, qui se bagarraient au sein du mouvement syndical pour y faire pénétrer leur conception.
Je vais vous dire, les gars, ce qu'il faut faire pour faire augmenter vos salaires. D'abord, parler avec les potes et faire une section syndicale. Tous solidaires, ce sera pas long, pour faire la nique au patron. Moins d'heures de boulot, meilleures conditions de travail, les congés payés, les gosses au bord de la mer. Ça semble simple, mais ça l'est pas, et je vais vous expliquer mieux que ça. Pourquoi faut rejoindre le syndicat? Car si vous croyez que le patron va de lui-même vous augmenter, vous serez là au jugement dernier. On sera tous morts et enterrés, au paradis bien sûr, et Saint-Pierre sera un bon patron pardi. Vous savez bien que vous êtes exploité, mais le patron, il dit que non. Il force les cadences à t'en faire crever, tu peux être viré, mais te laisse pas faire. Faut tous signer une pétition et organiser un meeting. discutez, donnez votre avis, décidez, faites quelque chose. Patron futé comme un bison trouvera toujours le compte-service qu'il enverra dans votre meeting pour moucharder et provoquer. Faudra tout de suite dire au débile que le jaune lui va pas au teint. Arrête de faire la mouche, t'auras pas d'histoire, et le mec aveugle retrouvera la vue. Maintenant votre section est créée, vous tenez votre première réunion. Choisissez bien quelques copains pour composer votre bureau. Le patron qui est sourd quand un seul jeune entend très bien le syndicat. Il est beau joueur, hein? Et il est tout seul. Allez les gars, on va le trouver.
Jean Maitron, à partir du début de l'année 1994, Paul Delsalle va travailler comme ajusteur mécanicien chez Doignon, qui est un fabricant d'instruments de précision qui se trouve rue Notre-Dame-des-Champs. Et travaillant chez Doignon, il va recevoir un jour les plans d'un appareil qui porte un nom très compliqué, le chronophotographique, en 1895. Sur les plans, je crois, de Paul Delsalle, il y a simplement la mention « photo chrono des frères Lumière ». Il s'agit du premier cinématographe qui va donc être monté en partie par Paul Delsalle.
Monté par Paul Delsalle lui-même. Par Paul Delsalle et son ami, compagnon d'étau, a-t-il écrit, Charles Viardot, qui lui aussi, et vous voyez que les compagnons de cette époque, quand je dis compagnons, ce ne sont pas aux anarchistes que je pense, c'est plutôt aux ouvriers, n'est-ce pas ? Les ouvriers de cette époque étaient des gens bien. Il y avait vraiment dans cette intelligentsia ouvrière des cadres magnifiques. Charles Viardot, en effet, fut un des fondateurs du syndicat des ouvriers en instruments de précision, fut ensuite le fondateur de la coopérative qui dura plus de 20 ans, dont il fut l'un des dirigeants pendant jusqu'en 1920. Et par conséquent, ils étaient l'un et l'autre des ouvriers particulièrement qualifiés. Bref, on leur confie les bleus, comme on disait à cette époque, qui étaient les bleus de l'appareil de cinéma chronophoto ou photochrono, mais qui portait aussi le nom de cinématographe, et ils furent ceux qui construisirent, d'après les cotes minutieusement calculées, des techniciens, des frères Lumière. Et ce qu'il y a de curieux, c'est qu'ils construisirent l'appareil, alors les tambours et tout ce qui s'ensuit, les roues de toute nature, suivant les cotes exactes.
Fraisés et taillés par Delsalle.
Et ce qui arriva, qui était souvent prévu, c'est que la pellicule se déchira. Alors on leur dit, scandale, recommencez, surtout vérifiez les cotes. Ils recommencèrent et la pellicule se déchira une fois de plus. Et alors, ils eurent ce que souvent l'ouvrier, la réaction qu'a l'ouvrier vis-à-vis de la matière, qui est rebelle, qui se plie malaisément aux calculs inhumains de l'architecte, de l'ingénieur, et qui pourtant plie sous le doigté de l'ouvrier intelligent et du métier. Et alors, bon, ils ne respectèrent pas sans doute toujours les cotes, mais effectivement, l'appareil marcha. Alors, Delsalle, qui est honnête, ne se prononce pas sur l'appareil dont on se servit lors de la projection quelques mois plus tard, en décembre, si mes souvenirs sont exacts, 95, qui eut lieu boulevard des Capucines. Seulement, avec son tempérament explosif, il râla toute sa vie parce qu'il ne fut pas invité.
Colette Chambellan, vous nous recevez au Musée Social. Je crois que vous êtes conservateur de ce musée depuis très longtemps.
Depuis 20 ans.
Et vous avez connu Paul Delsalle.
Oui, pas dans mes activités.
Alors qu'il était libraire et alors qu'il travaillait,
je
crois.
Non, je ne l'ai pas connu en tant que libraire.
Aussi pour ce Musée Social.
Il a travaillé, il était libraire du Musée Social pendant longtemps, à une époque où je n'étais pas bibliothécaire, puisqu'il a été libraire de 1907 à 1932. Moi, je l'ai connu par des relations familiales quand j'étais enfant. Et je l'ai connu surtout après la Deuxième Guerre mondiale, quand il était retiré dans sa maison de Palaiseau.
Vous nous avez sorti une photographie justement de cette maison de Palaiseau. Bon, c'est un petit pavillon. Il est dans un jardin assez coquet.
Le jardin était coquet, la maison était coquette, mais extrêmement modeste. Elle était embellie par des affiches de Toulouse-Lautrec, des tableaux du Trio, de Pissarro, de Vlaminck, que Madame Delsalle d'ailleurs a très généreusement donné. Parce que c'était des gens qui ne vendaient rien et qui donnaient tout. Elle donnait une affiche de Toulouse-Lautrec facilement alors qu'elle n'avait pas aucun moyen d'existence.
Il est justement dans ce jardin avec sa femme, oui. Léona. C'est un monsieur déjà âgé et il est dans un costume. Enfin,
toujours, c'était comme tous les anarchistes. C'était des gens qui avaient une apparence très petite bourgeoise et qui tenait beaucoup à une certaine apparence de respectabilité, parce que c'était des gens... Même Paul Delsalle, par exemple, ne voulait pas que sa femme, quand elle était jeune, lise des romans, ce qui est paradoxal pour un anarchiste. Enfin, ça ne correspond pas du tout à l'image un peu théorique qu'on peut avoir de l'anarchiste.
Alors, vous étiez très jeune dans ces années d'immédiate après-guerre, quand vous avez rencontré Paul Delsalle. Comment avez-vous trouvé le personnage? Est-ce que vous pouvez nous décrire le personnage que vous avez rencontré?
Moi, j'étais très séduite par ces traces de militants d'avant 1914, parce que je trouve que tous, que ce soit Paul Delsalle, que ce soit les autres que j'ai connus, c'était des hommes d'une trempe assez exceptionnelle et ça se sentait dans leur personnalité. Ils n'avaient pas d'originalité profonde dans leur présentation, mais ils avaient une très grande honnêteté, une très grande originalité dans leur pensée, dans leur façon de poser les problèmes. Et puis on sentait à travers eux une extraordinaire honnêteté, surtout.
Est-ce que ce vieillard de plus de 70 ans avait gardé une très grande passion pour les luttes de sa jeunesse?
Il était passionné, oui. Il aimait beaucoup parler de son passé. Et il aimait beaucoup parler du passé ouvrier en général. Et il rappelait beaucoup les souvenirs d'Émile Pouget et de tous les hommes qu'il avait connus. Et comme il avait une collection extraordinaire chez lui, il assortissait tout ce qu'il disait d'une sortie de documents. Il savait sortir le tract qui illustrait, la carte postale, la brochure, les ouvrages. Et il avait aussi une superbe collection d'ouvrages, parce que c'était un bibliophile. Et il avait une merveilleuse reliure de Marius Michel ou de Le Grain, et qu'il vous sortait aussi à l'occasion. Et des très grands textes littéraires.
Est-ce qu'il était resté au fond de l'âme un anarchiste?
Il était anarchiste au sens profond, au sens qu'il avait pratiqué le refus de parvenir, le refus total des honneurs, le refus de l'argent. Ça, il était resté foncièrement anarchiste dans ce sens-là. Mais en même temps, très attaché à l'action collective. C'était un anarchiste syndicaliste et pas du tout un anarchiste individualiste. C'est pour ça qu'il avait adhéré au Parti communiste et qu'il y était resté très longtemps. Et qu'il participait, puisqu'une de ses dernières manifestations, c'était d'aller au mur des fédérés avec le Parti communiste. Il était très attaché à la commune et aux militants de la commune. Et il avait rassemblé patiemment des brochures de communards, tous les ouvrages pratiquement sur la commune, des lettres de déportés et des documents très émouvants. Je me souviens qu'il m'avait montré une planche qui avait été gravée par un déporté qui partait en Nouvelle-Calédonie et qui représentait Badingue.
Loup de la semaine sanglante, sachez-le, l'agneau se souvient du peuple. La justice est lente, elle est lente, mais elle vient. Le fils fera comme le père, la vengeance vous guette au seuil. Craignez de voir sortir de terre les morts enterrés sans cercueil. Tremblez les lions qu'on courrousse, mordent quand ils sont réveillés. Fleurs rouges éclosent dans la mousse, l'avenir pousse. sur le tombeau des fusillés, sur le tombeau.
Jean Maitron, Paul Delsalle, va quitter son activité professionnelle chez Doignon à partir de 1897 et à partir de cette année-là, il va devenir le collaborateur régulier de Grave, au temps nouveau d'une certaine façon, même s'il occupe un emploi relativement modeste de manutentionnaire, de commissionnaire, il devient à partir de ce moment-là une sorte de révolutionnaire professionnel et il va notamment occuper une place importante dans la Fédération des Bourses du Travail qui a été créée par Fernand Pelloutier et dont il va être élu au Congrès de Toulouse en 1897, secrétaire adjoint de la Fédération. Alors quel va être essentiellement son rôle auprès de Pelloutier ?
Il y a eu certainement une différence très grande entre Pelloutier et Delsalle. On pourrait être tenté de minimiser le rôle de Delsalle, en réalité, j'estime pour ma part qu'il fut à certains égards essentiel. Delsalle a été l'adjoint, il a été le lieutenant, si on veut. Mais il est certain qu'il aurait pris la place de Pelloutier si ses autres fonctions le lui avaient permis lorsque Pelloutier est mort. Et celui qui a succédé à Pelloutier, c'était Georges Yvetot. Les fonctions étant offertes à Delsalle, qui les refusait étant donné ce qu'il avait déjà comme tâche à accomplir ailleurs.
C'est-à-dire secrétaire général adjoint de la CGT en 1901, lorsque meurt Pelloutier.
Oui. Mais il aurait pu devenir secrétaire général dès la Fédération des Bourses du Travail. Cette Fédération des Bourses du Travail, voyez-vous, avec la Fédération des syndicats, connut des conflits très durs avant 1902, le Congrès de Montpellier. En 1898 encore, alors qu'il était donc secrétaire adjoint depuis 4 ans déjà aux côtés de Pelloutier, en 1898, des conflits très durs se produisirent entre la Fédération des Bourses et la Fédération des syndicats. Et au fond, antagonisme d'hommes, de personnalités. Mais dès 1902, la CGT exista sur le double plan de la Fédération des Bourses et de la Fédération des Syndicats. Et à ce moment-là, Delsalle apparaissait comme un des quatre, qui était un des dirigeants de la CGT naissante.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence entre les deux organisations, la Fédération des Bourses et puis la CGT?
La Fédération des Bourses, c'est une fédération des unions départementales, si vous voulez. C'est une union sur le plan horizontal. La Fédération des syndicats, c'est une union sur le plan vertical. Et la Fédération des syndicats est dirigée par des gens comme Grifful ou Pouget, tandis que la Fédération des Bourses est le propre de Pelloutier, auquel succédera donc Yvetot et Delsalle comme adjoint.
Les bourses du travail subsistent et subsisteront quel que soit le devenir du mouvement syndicaliste actuel. Leur rôle même ne fait, à notre avis, que commencer. Les travailleurs imbus des idées qui sont la caractéristique de notre Confédération générale du travail entrevoient pour ces institutions de nouveaux développements, leur assignent dans la société future un rôle bien plus grand encore. Ils veulent y voir l'embryon des organismes qui, dans une société communiste, assurerait la production et la répartition. S'il est exact que l'avenir est à l'association libre des producteurs, prévue par Bakounine, écrivait Fernand Pelloutier, annoncée par toutes les manifestations de ce siècle, proclamée même par les défenseurs les plus qualifiés du régime politique actuel, ce sera sans doute dans ces bourses du travail ou dans des organismes semblables, mais ouverts à tout ce qui pense et agit, que les hommes se rencontreront pour chercher en commun les moyens de discipliner les forces naturelles et de les faire servir au bien-être humain. Rôle beau et grand, si l'on fut jamais, l'on en conviendra, et qui, nous n'en doutons pas, se réalisera un jour. le rapide développement des bourses du travail, l'importance toujours plus grande qu'elles ne cessent de prendre dans la vie économique de ce pays, nous en donnent l'assurance.
On traque, on enchaîne, on fusille, tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les jeunes à pan de bouge, valets de roi et d'empereur. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuples et des curés. Oui, mais ça branle dans le manche, les mauvais jours finiront. Égare à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront.
Dans ces années 97-98, qui sont donc cruciales dans l'activité de Paul Delsalle, vous en esquissez un portrait comme syndicaliste révolutionnaire, et vous faites pour cela des comparaisons avec...
avec les grands.
Avec les grands, voilà.
C'est cela.
Et vous dites de Delsalle, ni théoricien, organisateur ou éducateur comme Pelletier, ni stratège de classe comme Riffel, ni écrivain et connaisseur d'hommes comme Pouget, ni tribun populaire comme Tortelier. En somme, vous en faites un homme tout à fait de second plan, un lieutenant, un homme d'exécution.
Ils sont les hommes du dictionnaire. Le dictionnaire est celui des obscurs, des sans-grades, des gens qui n'ont pas une personnalité dévorante, comme certains grands qu'on retrouvera toujours. Et dans cette mesure, Delsalle m'a beaucoup intéressé, parce qu'il est particulièrement efficace, mais ne joue pas un rôle de premier plan. Il est exact qu'il n'était pas un écrivain. J'ai pu lire beaucoup de brochures de Delsalle qui ne font que reprendre et populariser, mais est-ce négligeable, les thèses traditionnelles du mouvement syndical. Il n'était pas un tribun populaire, comme Tortelier, l'homme des meetings. Bon, mais est-ce qu'il n'en était pas moins efficace pour autant? Il n'était pas le stratège de classe, c'est-à-dire celui qui... Lorsque nous barbotions, comme disait Monat dans une grève, disait « les gars, voilà la direction, voilà ce qu'il faut faire ». Non, Delsalle n'était pas non plus le stratège de classe. On l'appelait le monsieur « oui, oui ». Mais il faut se méfier de ces gens qui disent toujours « oui » parce que ce sont les plus durs et les plus coriaces. Ils disent « oui, mais ils n'en font qu'à leur tête ». Eh bien, Pouget à côté de Griffel, qui était un autoritaire comme pas un, et de commerce difficile, Pouget, le père Pénard, disait toujours oui, mais il est l'homme qui supporta Griffel, et dans cet attelage à deux, celui qui fit progresser la CGT comme elle progressa au cours de ces années. Bien, Delsalle n'était rien de tout cela, mais il était l'homme de second plan, mais sur lequel on pouvait tabler.
Jean Maitron, en cette fin de 19e siècle et au début du 20e siècle, il va y avoir une affaire qui va couper la France en deux, c'est l'affaire Dreyfus. Alors, d'abord, quelle est l'attitude des anarchistes à l'égard de Dreyfus? Est-ce qu'on les trouve automatiquement du côté dreyfusard? Et puis, plus particulièrement, quelle va être l'attitude de Paul Delsalle, qui collabore à la fois au temps nouveau, donc de tendance anarchiste, et également à partir de la fin 1900 à l'hebdomadaire de la CGT, La Voix du Peuple? Est-ce qu'il écrit sur l'affaire Dreyfus?
Ce qu'il convient de noter, c'est le changement d'attitude des anarchistes en ce qui concerne l'affaire Dreyfus. Ils sont passés par deux phases, dirais-je. Tout d'abord le mutisme, ils étaient gênés pour dire du mal quand même.
Mais c'était un militaire.
C'était un militaire, ils étaient quand même gênés, n'est-ce pas, l'homme qu'on allait déporter à l'île du Diable, pour aboyer avec les aboyeurs. Et donc ils se sont tus, ou bien ils ont été même méchants pendant un moment, tellement l'homme leur était antipathique. Par exemple, un article de Pouget, dans un de ses journaux, Le Père Peinard, dont je donne lecture, qu'il soit innocent ou coupable, je m'en tamponne le coquillard, c'est du Pouget, on reconnaît le style. Nom de Dieu, je ne perds pas de vue que s'il était arrivé un coup de chambard à l'époque où le capitaine Dreyfus se pavanait chamarré de galons, il aurait paradé dans le clan des fusilleurs à la droite de Galifet, souvenir de la Commune. Toutes ces malpropretés se passent chez nos ennemis. Laissons donc les gens foutre de la haute, se bouffer le nez et ne nous emballons pas pour leur saloperie. Notre turbin est autre. Nous avons à tirer des plans pour que la garce de société actuelle, qui engendre toute la boue et la pourriture qui nous écœure, coule à l'égout et le plus vivement possible.
Alors ça, c'est en quelle année?
Ça, c'est du Père Peinard, novembre 97.
Delsalle, lui, va avoir une position quand même beaucoup plus nette du côté de Dreyfusard.
Et disons que, vous savez, tous les anarchistes se tiennent, ils sont pas structurés dans un parti, mais enfin, ils sont très solidaires, je pense que son attitude devait être à peu près celle-là.
En 97.
En 97, je suppose. Hein. Mais nous le verrons surtout en 99, lorsque l'affaire s'était développée. Vous savez que Dreyfus a donc été condamné, déporté. Tout ça se situe en 94 ou tout début de 95. Et c'est après, ou immédiatement avant, l'homme qui a déclenché chez les anarchistes le sursaut d'indignation, c'est Sébastien Faure. C'est Sébastien Faure qui va lancer une grande campagne en faveur de Dreyfus. Et antérieurement même, dirais-je, au J'accuse de Zola, qui est de janvier 98. Mais ensuite, Sébastien Faure va publier, grâce à des subsides, à de l'argent israélite, très certainement, pas un journal quotidien, et va mener une campagne acharnée en faveur de Dreyfus. Mais ce qui m'intéresse en l'occurrence, c'est plutôt quelle était la position de Delsalle. Delsalle très lié au temps nouveau, et les temps nouveaux, comme l'indiqua à plusieurs reprises Jean Grave, ne sont entrés dans l'affaire Dreyfus qu'en francs-tireurs, marginaux. Ils ne tenaient pas spécialement à se mêler à cette histoire qui ne les concernait pas. Quant à Delsalle, on sait très bien comment il a réagi, parce que nous possédons les lettres, la vingtaine de lettres, qu'il écrivait à sa femme alors qu'il était le correspondant, je suppose tout au moins, des temps nouveaux à Rennes, au second procès du Conseil de guerre de Dreyfus en 99.
Ma chère Léona, j'ai pu assister ce matin au grand drame historique qui se déroule présentement ici. Sans grande difficulté, j'ai réussi à entrer dans la salle du Conseil de guerre et jouir du premier acte. Des membres du Conseil, rien de particulier à signaler, juste la suffisance d'eux-mêmes que se doivent des individus qui se permettent de juger un de leurs semblables. L'entrée de Dreyfus dans la salle n'a pas été sans grandeur, et malgré le profond dédain que je professe pour les hommes à galons, j'ai senti ma gorge se serrer lorsque j'ai vu s'avancer face à moi la tête haute, mais sans affectation, le revenant de l'île du Diable. L'homme semble être resté militaire, son salut au conseil, tout dans son allure le dénote. L'homme est vieilli, Ses rares cheveux sont blancs, ses petits yeux cachés derrière son binocle, son faciès sémitique, quoique peu accentué, lui donnent une figure plutôt peu sympathique. Pourquoi je le cherche en vain? D'autre part, je ne puis me défendre d'un mouvement de sympathie pour l'homme par une masse d'autres sentiments moraux. Sentiments très complexes, difficiles à expliquer et à définir. Les débats ont débuté par la lecture de l'arrêt de la Cour de cassation. La lecture de ce document que j'avais lu ultérieurement a laissé sur moi l'impression de l'innocence. Par contre, la lecture de l'acte d'accusation, qui est le même qu'au procès de 1894, donna une mauvaise impression. Les faits qui y sont accumulés semblent faire un tout, qui pourrait conclure à la culpabilité. Quoi qu'on en ait dit dans la presse, les faits sont bien groupés. Beaucoup, il est vrai, ont été reconnus faux depuis. Et je suis peu étonné que les 7 galonnés de 1894 aient condamné. Après la lecture de ces deux documents, l'appel des témoins n'a donné lieu à aucun incident. Esterhazy cité ne viendra pas, c'est à peu près certain. Le président a procédé ensuite à l'interrogatoire. Et ici s'est présenté l'incident le plus impressionnant, probablement, de tous les débats. Lorsque le président a fait mettre sous les yeux de Dreyfus la fameuse copie du bordereau, base de l'accusation, celui-ci, d'une voix émue mais forte, s'est écrié « Je suis innocent ».
Dans la participation de Del Salle aux différents congrès, qu'il s'agisse de ceux des bourses du travail ou bien des congrès corporatifs de la CGT, je pense par exemple à celui de 1897, on voit curieusement Del Salle être le porte-parole d'un certain nombre de catégories professionnelles auxquelles il n'appartient pas. Par exemple, en 1997, il représente les garçons limonadiers. Il n'a jamais été garçon de café. Il prend position pourtant contre les pourboires, par exemple, ce qui est évidemment une question toujours actuelle. Et puis, il y a un certain nombre de positions concernant alors l'attitude en milieu du travail, comme par exemple, il prend position pour le boycott ou par exemple pour une certaine forme de sabotage. Dans cas de conditions insatisfaisantes de cette catégorie professionnelle. Alors pourquoi le voit-on dans ces congrès représenter des catégories professionnelles auxquelles il n'appartient pas?
Parce qu'il est l'homme de confiance. On sait que Del Salle, on peut faire appel à lui, il est l'homme sur lequel on peut compter. Et voilà pourquoi on le sait bien que dans les congrès, des hommes sont choisis non pas parce qu'ils appartiennent à la profession, mais parce qu'on a confiance en eux. Et Del Salle, c'est l'homme en qui on a confiance, dans lequel on se reconnaît et auquel on demande de développer, par exemple, de présenter une motion. Motion, par exemple, condamnant les pourboires. Et il condamnait les pourboires en 1897. Nous sommes en 1983 et on pourrait toujours présenter une motion semblable, mais il présente cette motion avec conviction parce qu'il pense que le pourboire diminue l'ouvrier qui le sollicite. En ce sens, moi, je vois dans Del Salle, un homme fier et digne de cette société des hommes libres que souhaitait Pelloutier et qui est un annonciateur. Et donc, en dépit de la modestie de ce qu'il présente, de revendications qui n'étaient pas les siennes, puisqu'il était ouvrier très fier d'ateliers de précision, fraiseur, etc., ajusteur, il s'est représenté dignement des compagnons, des camarades qui ne sont pas du tout de sa profession. Mais quand il présente les motions en faveur du... lui qui est un ouvrier qualifié et sérieux, hautement qualifié, et qui va conseiller le sabotage. C'est une chose assez curieuse. Le Gokene, n'est-ce pas, qui va emprunter aux Anglais, hein, qui est au fond la revendication « travail à la douce ». À mauvaise paye, mauvais travail, peut-on. C'est une forme de revendication qui n'a rien. Vous voyez, si nous sommes loin des attentats anarchistes.
On n'en est pas tellement loin, Jean Métron, parce qu'il y a tout de même un radicalisme dans ces positions syndicales qui empruntent quand même beaucoup à l'anarchisme. C'est-à-dire une contestation radicale du système d'organisation du travail, de la classe des patrons et du système des salariés. Il y a une volonté révolutionnaire, c'est en cela qu'ils sont des syndicalistes révolutionnaires, de provoquer une révolution dans l'organisation sociale du travail.
Mais voyez-vous, il y a une fidélité, je dirais, aux conceptions mères de la Première Internationale. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et quand on voit, par exemple, Delsalle protester au nom des bourses du travail, contre les subventions, contre le fait de quémander, là aussi, on retrouve le pourboire, de quémanter, c'est plus auprès des patrons, c'est auprès de l'État, auprès des municipalités, une aide pour soutenir les bourses du travail. Delsalle soutient la thèse contraire. Il dit que les ouvriers feront leurs affaires eux-mêmes et ne réussiront leur émancipation que dans la mesure où elle sera leur œuvre propre. Et par conséquent, il y a là une idée mère de la Première Internationale et du courant ouvrier français qui lui succède. Peut-être une idée un peu trop oubliée aujourd'hui, mais qui demeure, je crois, parfaitement valable et qui n'a pas fini d'inspirer les actions ultérieures des salariés et de la classe ouvrière, des travailleurs dans leur ensemble.
Les révolutions n'ont été efficaces qu'autant qu'elles étaient des révolutions économiques. Les révolutions politiques n'ont fait que changer la forme du gouvernement sans toucher aucunement aux bases de la société et sans influencer en aucune façon sur les conditions vitales de l'ouvrier. Les réformes mises à part, qui, comme je crois l'avoir démontré plus haut, ne sont que des palliatifs bons tout au plus à tromper pendant quelque temps ceux au profit de qui elles sont faites et qui ne tardent pas à s'en apercevoir. Le but poursuivi par les syndicats est donc en réalité un but révolutionnaire qui ne peut être atteint que par des moyens révolutionnaires, grève générale ou autre. Le but final étant la fin de l'exploitation de l'homme par l'homme, mais il faut avouer avec souvent une tendance vers un quatrième état centralisé. Car il ne faudrait pas nous abuser nous-mêmes en feignant de croire ou de vouloir faire croire que si tous ont vu la transformation de la société capitaliste, que tous n'attendent leur affranchissement que d'une société communiste libertaire. Beaucoup n'ont encore comme idéal qu'un communisme autoritaire ou collectivisme, confiant qu'ils sont, malgré tous les déboires, encourus dans le rôle de l'État-providence. Je n'ai pas à parler ici de l'État producteur et dispensateur de toutes les richesses, ennemi de la centralisation capitaliste. Nous ne sommes pas moins de la centralisation socialiste. Être gouverné par Jules Guesde ou Paul Lafargue ne nous sourit pas plus que d'être gouverné par Waldeck-Rousseau ou par Méline, à nous qui ne voulons pas être gouvernés du tout.
Ils sont morts 110 fois, pour que dalle, et pourquoi? Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang verser, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Pas sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en berne sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Il y en a pas sur 100 et pourtant ils existent et qu'ils se tiennent bien bras dessus bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout.
les anarchistes.
Une autre idée très moderne de Paul Delsalle, Jean Métron, c'est peut-être son attaque contre la tendance centralisatrice du syndicalisme, qui évidemment est à contre-pied de la théorie collectiviste.
Oui.
Qui a été peut-être aussi un peu oubliée.
Effectivement. Mais là, au fond, on verra une évolution se produire avec les années. Chez Delsalle, il demeure un libertaire. Et je crois, si on voulait séparer et opposer le Delsalle des années 1900, ou Delsalle des années 1890, ou le Delsalle des années 1920, ou Delsalle des années 1900, etc., on commettrait une erreur. Il y a une évolution chez Delsalle, et on la verra à nouveau, mais il y a une unité aussi. Je pense que l'esprit libertaire demeure fondamentalement chez Delsalle. Et donc cet esprit de contestation de l'autorité, qu'elle soit de l'État, qu'elle soit patronale, qu'elle soit sous toute autre dénomination, la contestation demeure et elle est l'essence, je crois, de l'esprit anarchiste conçu autrement que sous cette forme caricaturale que pouvaient être les attentats.
Jean Métron, à partir de 1904, c'est-à-dire à partir du congrès de Bourges, qui, entre parenthèses, marque un essor du mouvement syndical très important, puisque à l'époque, donc en 1904, il y a 130 000 syndiqués, ce qui est tout de même un nombre assez considérable, il va y avoir un nouveau combat qui va être engagé. C'est le combat pour les 8 heures de travail par jour, combat qui va d'ailleurs aboutir peu de temps plus tard, puisque c'est à partir du 1er mai 1906. Alors, quelle part Paul Delsalle va-t-il prendre pour ce combat des 8 heures ?
Oui, il aboutira au fond après la guerre de 14 tout de même, n'est-ce pas ? La conquête des 8 heures. En ce qui concerne Paul Delsalle, c'est la contradiction qu'on pourrait être à première vue tenté de déceler chez les anarchistes qui réclamaient le tout ou rien. Il y a peu, la grève générale, la révolution intégrale, que ce soit par les attentats, que ce soit par une lutte syndicale sans doute, mais peut-être sous la forme un peu caricaturale là aussi, de la grève générale.
Alors est-ce qu'on est passé du syndicalisme révolutionnaire au syndicalisme réformiste comme en Angleterre ?
Bon, alors là je crois non, parce que justement, ce qu'il y a de curieux dans le mouvement syndicaliste révolutionnaire français, c'est qu'il a gardé de la période antérieure, si vous voulez, l'esprit de contestation globale et en même temps faisant sien l'esprit des conquêtes pas à pas. Les 8 heures, c'est une conquête modeste par rapport à la révolution sociale à laquelle rêvaient les ancêtres. Mais elle est quand même un facteur positif. Et bien Delsalle, curieux, mais il n'était pas seul. Il se retrouvait de plein pied avec ses camarades. Pouget, Grifful, Monat, mais ces ultra-révolutionnaires sont pour les conquêtes immédiates.
Quoique communiste, et parce que je crois qu'il faut ici respecter les opinions de tous, l'application du communisme pouvant impliquer une forme politique à la société, je demande aux auteurs de l'ordre du jour de retirer les mots et d'établir la société communiste qui fera le bonheur de l'humanité. Il ne faut pas que personne ici puisse dire que nous avons fait une manifestation politique. Congrès des Bourses du Travail, Montpellier, septembre 1902.
Et ce qui est curieux, c'est qu'il y a la juxtaposition, au fond, un peu des deux courants, des deux idées. Oui. Bon, les 8 heures qui peuvent entrer dans le cadre du syndicalisme réformiste. Et puis, à ce même congrès d'Amiens d'octobre 1906, on voit, par exemple, une résolution qui prône la grève générale par corporation, la cessation du travail partout à date fixe, la mise du prolétariat en état de guerre ouverte avec la société capitaliste, et puis la grève générale qui doit ouvrir et mener sur la révolution. Et alors c'est une proposition qui, à ce congrès, est adoptée à l'unanimité, et dont les phases de réalisation sont confiées précisément à Paul Delsalle.
À Paul Delsalle, oui. Mais il ne faudrait pas se méprendre sur Amiens. Amiens vit des gens venus d'horizons très divers. Il y eut des réformistes, comme des guédistes, comme Renard. Et Renard disparut avec les siens, qui représentaient alors là les guédistes du Nord. Il y eut les réformistes, comme Queuefaire, et qui ne représentaient pas rien, mais qui lui aussi se rallia à cette motion d'Amiens. Et alors, au fond, je dirais que les grands gagnants d'Amiens, ce furent les anarchistes. Les anarchistes d'hier, et non pas les anarchistes d'aujourd'hui. Par exemple, Yvetot et sa motion antimilitariste et excessive fut votée, certes, mais un nombre de voix limité. Il y eut l'unanimité pour la motion d'Amiens, la motion syndicale de la charte qui est devenue célèbre sous le nom de charte d'Amiens. Et je dirais que le mérite des syndicalistes révolutionnaires, tous les Delsalles compris, fut d'avoir su évoluer, sans rien renier de leur conception antérieure, mais d'avoir su évoluer et de se mettre au pas de la classe ouvrière. Mais je crois qu'il y a un mot de Lénine à ce moment-là. Le leader ouvrier doit être un peu en avant, mais pas se couper de la classe. Je pense qu'à Amiens, les syndicalistes révolutionnaires ont eu instinctivement cette attitude. Quelques pas en avant de la masse salariée, mais sans couper avec elle.
Sur le problème de la guerre, par exemple, vous parlez de cet antimilitarisme qui, au fond, est très directement hérité des positions anarchistes. Delsalles semble tout à fait sur les positions anarchistes concernant l'antimilitarisme. Il prône, par exemple, une grève générale militaire en cas de guerre à cette époque. Il y a toute la campagne par l'intermédiaire de l'hebdomadaire de la CGT, La Voix du Peuple, et puis des affiches qui déclarent guerre à la guerre et qui entraînent un certain nombre de poursuites, comme les poursuites de Grifful, de Pouget, de Grandjouan, également de Delsalles.
Et ils ne déclareront pas la guerre à la guerre.
Ils vont évoluer plus tard à l'approche de la guerre de 14.
Au départ, ils se rallieront au courant général qui entraînait les peuples dans l'affrontement catastrophique que fut la guerre de 1914-1918.
Comme ça s'est passé en Angleterre.
Quitte à se reprendre.
Et en Allemagne, oui. Dans les milieux du syndicalisme ouvrier.
Voilà. Et par conséquent, je crois pouvoir dire que certains et nombreux étaient victimes des mots à ce moment-là, sans que cela comporte une adhésion fondamentale à quelque chose de très illusoire, qui ne tenait pas, qui n'était pas la conclusion d'une organisation solide et pouvant entraîner manifestement quelque chose. Sans oublier bien d'autres facteurs, les souvenirs de la guerre de 70, de la défaite française, d'un certain patriotisme toujours vigilant, d'un anti-germanisme permanent qui firent que des ralliements se firent sans beaucoup de difficultés au moment de la guerre de 14.
Allons enfants des prolétaires, on nous appelle au régiment, on veut nous faire militaires pour servir le gouvernement. Nos pères furent très dociles à des règlements incompris. Nous nous serons moins imbéciles, les insoumis, les insoumis. Nous nous serons moins imbéciles, les insoumis, les insoumis.
La voix du canon résonne. Et en tout temps, vous devez frissonner, et les volants des enfants, et le cri de la mêlée, et l'écho de la vallée, répète, et les volants.
On nous dit d'avoir de la haine pour les germains envahisseurs, de tirer Alsace et Lorraine,
d'entre les mains des oppresseurs. Que nous font les luttes guerrières des affameurs de tout pays? Nous ne voulons plus de frontières, les insoumis, les insoumis. Nous ne voulons plus de frontières, les insoumis, les insoumis.
On marche au pas gymnastique, la fièvre se communique par les yeux étincelants. On croise la baïonnette et chaque fois qu'il répète, en avant, servez-vous.
On nous parle en vain de patrie, nous aimons les peuples divers. Nous allons porter l'anarchie sur tous les points de l'univers. Au jour de la lutte finale, les réfractaires tous unis feront l'internationale des insoumis, des insoumis. Feront l'international des insoumis, des insoumis.
On avance, la mitraille fait la peur de la bataille. On enjambe les rouleaux, voir à celui qui succombe et le commandant qui tombe en criant Errez-vous.
Si les bourgeois font la revanche, ce jour les peuples révoltés s'élanceront en avalanche, les bourgeois seront emportés. Si le soldat est notre frère, les gradés sont nos ennemis, car ils ont déclaré la guerre aux insoumis, aux insoumis. Car ils ont déclaré la guerre aux insoumis, aux insoumis.
Les inconnus de l'histoire enquêtent sur un anarcho-syndicaliste du début du siècle, Paul Delsalle, par Jean Montalbetti, médiateur Jean Métron, historien du mouvement anarchiste en France et également auteur du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier, consultant Colette Chambellan, conservateur du musée social. Les textes des articles et brochures et de la correspondance de Paul Delsalle ont été dits par Michel Creton. Parmi les documents que vous avez entendus au cours de cette émission, François Béranger chantait le blues parlé du syndicat, Pierre Barbier le tombeau des fusillés, France Vermilla la semaine sanglante de Jean-Baptiste Clément, Léo Ferré les anarchistes, Marc Augeret les conscrits insoumis et Aristide Bruand serrez vos rangs. Prise de son Daniel Labigne, mixage Édouard Campras, réalisation Daniel Fontanarosa.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 22 juillet 1983. À suivre.